Bonjour, Marco. Compte à rebours. Contes à rebours, et oui, ce sont bel et bien des contes, des histoires, des légendes. Et aujourd'hui, on va repartir. Déjà, dans cette émission, nous étions partis au pays des mille et une nuits. Et quel est ce pays, d'ailleurs, des mille et une nuits? Une question difficile, parce que les mille et une nuits, en fait, c'est une tradition, un recueil de contes populaires qui ont eu une existence purement orale, de bouche à oreille, pendant longtemps, et dans tout un tas de pays, que ce soit à Damas, au Caire, à Bagdad, au Maroc. En fait, tout l'Orient. Au départ, il y a peut-être une œuvre persane, un point de départ persan en tout cas, puis ça s'est enrichi de tout un tas d'histoires qui ont été racontées, et en persan, en turc, en hindoustani, ça s'est répandu dans tout l'Orient. Et donc, le pays des mille et une nuits, c'est le Moyen-Orient, on va dire, dans son ensemble. Eh bien, les mille et une nuits, qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, je voulais vous citer. Alors, donc forcément, les mille et une nuits n'ont pas d'auteur connu, puisqu'il s'agit en fait d'une tradition orale au départ. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont commencé à compiler ces œuvres et à les écrire. Hein. On est passé de la tradition orale à l'écriture. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé. Puis, il y a aussi tous les traducteurs. Et c'est là que c'est intéressant, puisque en France, en particulier, on a deux traducteurs, Galland ou bien Mardrus. Alors là, à nouveau, je vais vous lire des textes traduits par Joseph Charles Mardrus. Parce que, bon, voilà, c'est un style un peu particulier qui a été, tout à fait remarqué et apprécié par les écrivains surtout. C'est comme ça que dans la dédicace de l'édition originale des Mille et Une Nuits, le premier volume est dédié à Paul Valéry, le deuxième à Anatole France, le troisième à José Maria de Heredia, le quatrième à André Gide, qui était un adorateur de la traduction de Charles Mardrus, ensuite Lucie Delarue, Maurice Maeterlinck, Henri de Régnier, Pierre Louis, donc pour le tome 8, et ce n'est que le tome 9 qui est dédicacé à un professeur, Hartwig d'Ehrenburg, parce que en fait les milieux orientalistes, les milieux un peu universitaires ont accueilli cette traduction avec un certain scepticisme. Ils étaient probablement jaloux de cette traduction magnifique, mais Hartwig d'Ehrenburg, lui, a dit que cette traduction était bonne et c'était un professeur, et c'est pour ça que Charles Mardrus en parle comme l'un des rares savants qui sache la différence entre une gaze de soie et un treillis de fer. Et dans la préface de l'édition originale, Charles Mardrus dit « J'offre toute nue, vierge, intacte, naïve, pour mes délices et le plaisir de mes amis, ces nuits arabes vécues, rêvées et traduites sur leur terre natale et sur l'eau. » Oui, parce que Charles Mardrus était né en Égypte, avait étudié à Beyrouth et avait entendu toutes ces histoires de ses propres oreilles qui comprenaient l'arabe parlé là-bas. Et donc, sa traduction est toute empreinte de cette verve particulière. Aujourd'hui, trois histoires. L'âne et le bœuf, alors un peu pioché au hasard, parce qu'il y a mille et une nuits et donc il y a beaucoup de textes. L'âne et le bœuf, une autre histoire mâle ou femelle, et on terminera par le partage. Des histoires bizarres, vous verrez, des histoires d'animaux qui parlent, et ou aussi les relations entre l'homme et la femme, et entre le riche, le puissant, le sultan, le calife, et le pauvre, le populo, sont tout à fait intéressant à apprécier. On part tout de suite dans cette histoire d'un homme qui comprenait le langage des animaux. La fable de l'âne, du bœuf et du maître de la bourre. Allah, Allah, Allah. crache où ma fille, qu'il y avait un commerçant, maître de grande richesse et de bétail, marié et père d'enfants. Allah Très-Haut lui donna aussi la connaissance des langues des animaux et des oiseaux. Or, le lieu d'habitation de ce commerçant était un pays fertile sur le bord d'un fleuve. Et dans la demeure de ce commerçant, il y avait aussi un âne et un bœuf. Un jour, le bœuf arriva à l'endroit occupé par l'âne et trouva cet endroit balayé, arrosé. Dans l'auge, il y avait de l'orge bien criblée et de la paille bien criblée, et l'âne était couché, bien au repos. Ou bien quand son maître le montait, c'était seulement pour une petite course, et l'âne revenait bien vite à son repos. Or, ce jour-là, le commerçant entendit le bœuf qui disait à l'âne « Mange avec délice, et que cela te soit sain, profitable et de bonne digestion. Moi, je suis fatigué. » Et toi, reposé, tu manges l'orge bien criblée, tu es servi. Et si des fois parmi les moments ton maître te monte, il te ramène bien vite. Quant à moi, je ne sers qu'au labour et au travail du moulin. Alors l'âne lui dit, écoute, lorsque tu sortiras au champ et qu'on te mettra le joug sur le cou, jette-toi à terre et ne te lève point, même si on te frappait. Et quand tu te seras levé, vite, recouche-toi pour la seconde fois. Et si alors on te fait retourner à l'étable et qu'on te présente les fèves, n'en mange point, tout comme si tu étais malade. Ainsi, efforce-toi de ne pas manger ni boire durant un jour ou deux ou trois. De cette façon-là, tu te reposeras de la fatigue et de la peine. Or, le commerçant était là qui entendait leurs paroles. Lorsque le meneur du bétail vint près du bœuf pour lui donner le fourrage, il le vit manger très peu de choses. Et quand le matin il le prit au labour, il le trouva malade. Alors le commerçant dit au meneur du bétail, « Prends l'âne et fais-le labourer à la place du bœuf durant toute la journée. » Et l'homme revint et prit l'âne à la place du bœuf et le fit labourer durant tout le jour. Lorsque l'âne retourna à l'étable à la fin du jour, le bœuf le remercia pour sa bienveillance et pour l'avoir laissé se reposer de la fatigue durant tout ce jour. Mais l'âne ne lui rendit aucune réponse. Et se repentit, le plus fort repentir. Le lendemain, le semeur revint et prit l'âne et le fit labourer jusqu'à la fin du jour. Et l'âne ne retourna que le cou écorché et exténué de fatigue. Le bœuf, l'ayant vu dans cet état, se mit à le remercier avec effusion, à le glorifier de louanges. Alors l'âne lui dit, « J'étais bien tranquille auparavant. Oh, rien ne me nuisit que mes bienfaits. » Puis il ajouta, « Pourtant, il faut que tu saches que je vais te donner un bon conseil. J'ai entendu notre maître qui disait, « Si le bœuf ne se lève pas de sa place, il faut le donner à l'égorgeur pour qu'il l'immole et qu'il fasse de sa peau un cuir pour la table. Et moi, j'ai bien peur pour toi. Je t'en avise. » Lorsque le bœuf entendit les paroles de l'âne, il le remercia et dit, « Demain, je serai guéri. » Là-dessus, il se mit à manger et avala tout le fourrage, et même il lécha le boisseau avec la langue. Tout cela, et leur maître écoutait leurs paroles, et il comprenait. Lorsque parut le jour, le commerçant sortit avec son épouse vers l'habitation des bœufs et des vaches, et tous deux s'assirent. Alors le conducteur vint et prit le bœuf et sortit. À la vue de son maître, le bœuf se mit à agiter la queue, à péter avec bruit et à galoper follement en tous sens. Alors, le commerçant fut pris d'un tel rire qu'il se renversa sur le derrière. Aussitôt, son épouse lui dit, « De quelle chose ris-tu ? » Il lui dit, « D'une chose que j'ai vue et entendue et que je ne puis divulguer sans mourir. » Elle lui dit, « Il faut absolument que tu me la racontes et que tu me dises la raison de ton rire, même si tu devais en mourir. » Il lui dit, « Mais je ne puis divulguer cela à cause de ma peur de la mort. » Elle lui dit, « Mais alors tu ne ris que de moi. » Et puis elle ne cessa de se quereller avec lui et de le harceler de paroles avec opiniâtreté, tant qu'à la fin, il fut dans une grande perplexité. Alors il fit venir ses enfants en sa présence et envoya mander le cadi et les témoins. Puis il voulut faire son testament avant de révéler le secret à sa femme et mourir. Car il aimait sa femme d'un amour considérable, vu qu'elle était la fille de son oncle paternel et la mère des enfants, et qu'il avait déjà vécu avec elle 120 années de son âge. De plus, il envoya quérir tous les parents de sa femme et les habitants du quartier. Il raconta à tous son histoire et qu'à l'instant même où il dirait son secret, il mourrait. Alors tous les gens qui étaient là dirent à la femme « Par Allah, laisse de côté cette affaire, sinon ton mari va mourir, le père de tes enfants !» Mais elle leur dit « Je ne lui laisserai la paix qu'il ne m'ait dit son secret, même dût-il à mourir. » Alors ils cessèrent de lui parler. Et le marchand se leva de près d'eux et se dirigea du côté de l'étable, dans le jardin, pour faire d'abord ses ablutions et retourner ensuite dire son secret et mourir. Or, il avait un vaillant coq, capable de satisfaire 50 poules, et il avait aussi un chien. Et il entendit le chien qui appelait le coq et l'injuriait, et lui disait « N'as-tu pas honte d'être joyeux alors que notre maître va mourir ?» Alors le coq dit au chien « Mais comment cela ?» Alors le chien répéta l'histoire, et le coq lui dit « Par Allah, notre maître est bien pauvre d'intelligence. Moi j'ai 50 épouses, et je sais me tirer d'affaire en contentant l'une et en grondant l'autre. Et lui, il n'a qu'une seule épouse, et il ne sait ni le bon moyen de la façon dont il faut la prendre. Or c'est bien simple. Il n'a qu'à couper à son intention quelques bonnes tiges de mûrier, entrer brusquement dans son appartement réservé et la frapper jusqu'à ce qu'elle meure ou se repente. Et elle ne recommencera plus à l'importuner de questions sur quoi que ce soit. » Lorsque le commerçant eut entendu les paroles du coq discourant avec le chien, la lumière revint à sa raison et il résolut de battre sa femme. Il entra dans la chambre réservée de sa femme après avoir coupé à son intention les tiges de mûrier, les avoir cachées, et lui dit en l'appelant « Viens à la chambre réservée pour que je te dise mon secret et que personne ne puisse me voir. Et puis, je mourrai. » Alors, elle entra avec lui. Il ferma la porte de la chambre réservée sur eux deux. Et il lui tomba dessus à coups redoublés jusqu'à la faire s'évanouir. Alors elle lui dit « Je me repens, je me repens !» Puis elle se mit à embrasser les deux mains, les deux pieds de son mari et se repentit vraiment. Et alors, elle sortit avec lui. Aussi, toute l'assistance se réjouit. Et se réjouirent aussi tous les parents. Et tout le monde fut dans l'état le plus heureux et le plus fortuné jusqu'à la mort. Les chants dévotionnels de Cheikh Habouch accompagnaient cette histoire des mille et une nuits. Alors peut-être que vous connaissez ce qui se passe dans les mille et une nuits. Là, on était au tout début en fait. Ce petit conte, c'est un conte que raconte le vizir à sa fille Shirazade pour la convaincre de faire quelque chose. Et ce qu'elle va finir par faire, c'est accepter d'aller auprès du calife. Et parce que le calife, bien sûr, il est un peu dangereux, quoi. Il aime beaucoup les jeunes filles. Et lorsqu'il a profité d'une jeune fille toute une nuit, au petit matin, il la tue. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci avec la descendance. Et du coup, Shirazade essaye de sauver sa peau. C'est pour ça qu'elle va raconter mille et une histoires, enfin plus que mille et une histoires, puisque des fois elle en raconte deux ou trois par nuit. Elle va raconter pendant mille et une nuits, parce que le roi, tant qu'il écoute les histoires, il est comme un enfant, il a beau être brutal et despote, il a la langue qui pend, il écoute les histoires, il veut savoir la suite. Elle prend bien garde de s'arrêter au milieu d'une histoire juste avant l'aube, ce qui fait que, il remet l'exécution au lendemain et Shirazade sauve sa peau à chaque fois. Là, on va être à la 381e nuit avec cette histoire qui s'intitule « Mâle ou femelle ». On raconte, entre diverses anecdotes sur le roi de Perse, le grand Khosrou, que ce roi était un grand amateur de poissons. Un jour qu'il était assis sur sa terrasse avec son épouse, la belle Shirine, un pêcheur vint lui apporter en présent un poisson d'une grosseur et d'une beauté extraordinaires. Le roi fut émerveillé de ce présent et ordonna de faire donner 4000 drachmes au pêcheur. Mais la belle Shirine, qui n'approuvait jamais la généreuse prodigalité du roi, attendit le départ du pêcheur et dit « Il n'est pas permis d'être prodigue au point de donner à un pêcheur 4000 drachmes pour un seul poisson !» Tu devrais te faire rendre cette somme. Sinon, tous ceux qui, à l'avenir, t'apporteraient un présent, régleraient leurs espoirs sur ce prix-là, comme point de départ, et tu ne pourrais plus faire face à leurs prétentions. Le roi Khosrou répondit, « Ce serait pourtant un opprobre pour un roi de reprendre ce qu'il a donné. Oublions donc ce qui s'est passé. » Mais Shirine répondit, « Non. Il n'est pas possible de laisser la chose courir de la sorte. Il y a un moyen de reprendre la somme sans que le pêcheur ni personne puisse y trouver à redire. On n'a pour cela qu'à faire revenir le pêcheur et lui demander « Le poisson que tu m'as apporté est-il mâle ou femelle ?» S'il te répond que c'est un mâle, rends-lui le poisson en disant « C'est une femelle que je veux. » Et s'il te dit que c'est une femelle, rends-le en disant « C'est un mâle que je veux. » Le roi Khosrou, qui aimait d'un amour extrême la belle Shirine, ne voulut pas la contrarier et se hâta de faire, mais avec regret, ce qu'elle lui conseillait. Seulement, le pêcheur était un homme doué de finesse d'esprit et d'à-propos. Et lorsque Khosrou, l'ayant fait revenir, lui eut demandé « Le poisson est-il mâle ou femelle ?» Il embrassa la terre et dit « Ce poisson-là est hermaphrodite. » À ces paroles, Khosrou se dilata d'aise et se mit à rire. Et puis, il ordonna à son intendant de donner au pêcheur 8000 drachmes au lieu de 4000. Le pêcheur s'en alla avec l'intendant qui lui conta les 8000 drachmes. Et il les mit dans le sac qui lui avait servi à porter le poisson et sortit. Lorsqu'il fut dans la cour du palais, il laissa par inadvertance tomber du sac un drachme d'argent. Aussitôt, il s'empressa de poser son sac par terre, de chercher ce drachme et de le ramasser avec une satisfaction très grande. Or, Khosrou et Shirine l'observaient de la terrasse et virent ce qui venait de se passer. Alors Shirine, contente de l'occasion qui s'offrait à elle, s'écria « Voilà ce pêcheur ! Quelle ignominie est la sienne ! Il laisse tomber un drachme et au lieu de le laisser là pour qu'il soit ramassé par quelques pauvres, il est assez vil pour le reprendre et en frustrer le besogneux. » À ces paroles, Cosrou fut très impressionné et, faisant rappeler le pécheur, lui dit « Ô être abject, tu n'es certes pas un homme pour avoir une âme si petite. Ton avarice te perd qui te fait déposer un sac rempli d'or pour ramasser un seul drachme tombé pour la chance du besogneux. » Alors, le pécheur embrassa la terre et répondit « Qu'Allah prolonge la vie du roi. Si j'ai ramassé ce drachme, ce n'est point parce qu'il m'est cher comme prix, mais parce que sa valeur est grande à mes yeux. Ne porte-t-il pas en effet sur une de ses faces l'image du roi et sur l'autre son nom ? Je n'ai point voulu le laisser exposé à être foulé par inadvertance aux pieds de quelques passants. Je me suis hâté de le ramasser, suivant en cela l'exemple du roi qui m'a tiré moi-même de la poussière, moi qui vaut un drachme à peine. » Cette réponse plut tellement au roi Cosrou qu'il fit encore donner 4000 drachmes au pêcheur et ordonna aux crieurs publics de crier par tout l'empire « Il ne faut jamais se laisser guider par le conseil des femmes, car celui qui les écoute commet deux fautes en voulant éviter la moitié d'une. » Eh bien, compte à rebours, c'est déjà fini. J'avais prévu une autre histoire, ce sera pour la prochaine fois. On y reviendra, de toute façon, les mille et une nuits, ce sont tellement d'histoires que j'en ai pour au moins quelques années. Allez, c'était Marco, compte à rebours, à la semaine prochaine. Bye.